Bon, ben, il y a trois petites questions qui s'opposent. Au dernier cours, vous avez souligné que saint Thomas fait appel à Boès et non pas à Aristote pour parler de la personne humaine. Est-ce à dire qu'il y a une limite dans la découverte de la personne chez saint Thomas? Comment le développement d'une pensée logique peut manifester la personne humaine?
Chez Boès, c'est sûr, c'est une définition extrêmement logique. Boès en donne cette définition. La personne est la substance individuelle de nature raisonnable. La substance individuelle de nature raisonnable. Or, cette définition paraît irrecevable. En effet, on ne définit pas le singulier, c'est-à-dire à tort ce qu'on l'a défini. Dans cette définition, le terme substance est à prendre soit au sens de substance première, soit au sens de substance seconde. S'il s'agit de substance première, le mot individuel est de trop, car la substance première est la substance individuelle. S'il s'agit de substance seconde, individuel en fait une définition fausse. Il ne reste plus grand-chose, hein. Définition de Boès. Dans la définition d'une réalité, on ne doit pas insérer le terme signifiant une intention logique. Par exemple, l'énoncé que voici l'homme est une espèce d'animal ne constitue pas une bonne définition, car homme désigne une réalité, tandis que espèce signifie une attention logique. La nature, dit Aristote, est le principe du mouvement et du repos de l'être dans ce qui est sujet par soi et non par accident. Mais la personne se vérifie chez les êtres soustraits au mouvement comme Dieu et les anges. C'est sûr que saint Thomas était en grande pénurie vis-à-vis de la personne. Le retour à Boès est très bien, mais au fond, c'est ainsi. Insatisfaisant. Boès essaie de définir la personne. Alors, est-ce que la personne se définit? C'est la grosse question. Est-ce que vous pouvez définir une personne? Et toujours le besoin de définir. Genre et différence spécifique. La question est de savoir si on peut définir la personne. La personne n'est ni un principe, ni une définition. Alors, je crois que la personne, c'est la manière d'être, le pos. Or, la scolastique a toujours cherché à préciser le ti esti, ce qu'est la chose, et à laisser tomber le pos, le comment. Et tout à fait autre chose, mais pour que vous compreniez mieux, quand on regarde le récit de l'Annonciation, il y a le ti esti. Le Père demande à Marie qu'elle soit la mère de son fils. Puis, il y a ensuite la manière dont se réalise ce mystère, le pos. Et pour réaliser le pos, on dit c'est l'Esprit Saint qui se chargera de tout. Et le tiesti et le pos, dans la philosophie d'Aristote, c'est capital. Il faut donc bien saisir la différence du tiesti et du pos. C'est capital. En philosophie, la distinction du tiesti, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que signifie ça? Qu'est-ce que veut dire ça? Et la définition du pos, la manière dont il se fait. Alors, je ne définis pas la manière. Et alors, je crois que le tiesti, que la personne, ce n'est pas un principe, mais c'est une manière de réaliser ma nature humaine. Ma nature humaine, qui implique intelligence et volonté, peut se réaliser de façon très différente. Et comme elle peut se réaliser de façon très différente, les manières dont elle se réalise me montrent ce qu'est la personne. Oui. Alors.
Est-ce que la définition de Boès est fausse ou alors
Non, elle n'est pas fausse. Elle est pauvre. Vous voyez, au fond, Boès regarde toujours le point de vue logique. Alors, au point de vue logique, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la personne comme le sujet. Vous voyez, au point de vue logique. La personne, c'est ce que je fais. Et c'est elle qui est responsable de mes actes. Ma personne est responsable de mes actes. Donc, c'est une qualité particulière du sujet. Un sujet qui fait que ses activités, il en est responsable. Voilà la personne. Et au fond, dans les procès d'aujourd'hui, au point de vue juridique, les gens en arrivent à ça. Est-ce que cette personne était responsable de ses actes? Cette personne n'est pas responsable de ses actes, elle n'est plus coupable. Ce n'est plus des actes personnels. Et si, par exemple, très fatigué, vous mettez vous enivré et vous faites une activité étant un peu ivre, vous n'êtes pas responsable, mais vous êtes responsable de vous être enivré. Mais de s'être enivré, après, vous n'êtes plus responsable. Ce n'est plus des actes personnels. Oui. L'acte personnel, c'est l'acte dont on est responsable. Alors l'acte dont vous êtes responsable, c'est bien une manière d'être. Je suis capable de répondre de mon activité. Je suis capable d'orienter mon activité. Ça, c'est un acte personnel. Tandis que vous vous réveillez la nuit dans un cauchemar et les premières activités que vous faites, vous êtes encore dans le sommeil et dans le cauchemar, ce que vous faites n'est pas responsable. Et si vous avez à côté de vous, à ce moment-là, un frère qui vous regarde, il dit « Oh, mais non, fais pas ça, tu fais ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu perds la tête. » Alors, la personne est donc à chercher, non pas du côté des principes, mais du côté des manières d'exercer les principes. Le pose.
Il y a une seconde question. En quoi le « je suis » regardé par le métaphysicien diffère-t-il de l'approche du « moi » analysée en psychologie en tant que conscience de soi, responsabilité, conscience de sa valeur personnelle?
Ça se touche. Je dirais c'est que le psychologue, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce que c'est que l'objet de la psychologie? L'objet de la philosophie, il y a les principes et le comment. Mais en psychologie, Est-ce que vous pouvez préciser en psychologie quel est exactement le principe de la psychologie? Quand allez-vous voir un psychologue? Vous allez voir un psychologue quand ça ne va plus bien. Vous ne dormez plus. Alors vous allez voir le psychologue. Je ne dors plus. Donc ça me fatigue énormément parce que je ne peux plus me reposer. Alors lui va essayer de voir. Vous ne dormez plus parce qu'au fond, il y a eu dans votre vie, il n'y a pas très longtemps, un choc très dur. Et ce choc très dur, psychologiquement, il revient le soir et vous empêche de dormir. Oui. Et c'est vrai, quand vous êtes très fatigué et en même temps très énervé, il y a une situation délicate, vous dormez très difficilement. Parce que vous revenez toujours à ça. Et tant que vous n'êtes pas résolu, vous n'arrivez pas. Non. Vous voyez, la psychologie, c'est beaucoup plus. Le mécano. Mais qui dit le moteur il va pas très bien, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Il cherche comment un point de vue passe après l'autre, alors il passe devant. Alors. C'est dans la complexité que nous avons au point de vue psychologique, parce que nous sommes très complexes au point de vue psychologique, nous sommes passionnés, nous sommes les émotions. Et c'est très très complexe la boutique. Alors, on essaie de voir ça en ordre, et quand ça va bien, tout est bien ordonné. Il y a une connaissance. Ce qu'on étudie en philosophie, c'est bien ordonné. Mais quand on regarde la réalité, c'est moins bien ordonné. La passion fonce. On est. Quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est en colère, vous essayez de le raisonner, vous dites, mais ne fais pas ça, il ne fait rien, je dois le faire, il doit comprendre. Et puis, il fonce. Il n'entend pas tout. Alors, à ce moment-là, on le mène au psychologue. Il y a quelque chose qui va. Mais moi, je n'ai jamais vu quelqu'un aller chez le psychologue et dire au psychologue, ça va très bien. Alors le psychologue dit, mais alors pourquoi vous venez? Ça va très bien. Alors, je viens pour vous, pour faire de la philosophie. Alors le psychologue dit, mais non, moi je suis là pour accommoder le système quand ça va plus. Il ne réfléchit pas tellement, il voit les obstacles qui sont nés. Vous avez voulu faire quelque chose, il y a eu quelqu'un qui ne vous aimait pas, qui a mis un gros obstacle sans vous le dire, et vous êtes heurté à ça. Mais on sait, quand on se heurte à un obstacle, il y a une réaction psychologique. Et on voit que ce qu'on a à faire, on le fait difficilement, on ne le fait plus avec la même simplicité, la même joie. Il y a quelque chose de cassé. Et alors le psychologue est là pour vous montrer ce quelque chose de cassé. Vous pouvez admirer dans le temps un Italien. Petit Italien, c'est juste près de d'Assise, il y avait une panne dedans. Alors, ce mécano italien a voulu faire marcher la voiture, puis il a écouté. Il a écouté. Puis uniquement au son du moteur, ah, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça, c'est très, très beau, le son du moteur. D'après le son du moteur, donc l'effet, il a tout de suite dit, ah, il y a là quelque chose. Il a regardé tout de suite, c'était ça. Et au fond, c'est le mécano. que là, un très bon mécano d'une grande boutique, et qui voit que ça va pas, il ne dort pas. Il a une mauvaise humeur tous les matins. Impossible de lui dire une chose, il est toujours en retard. Et alors, qu'est-ce que ça va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le psychologue, il est pour essayer de saisir l'ordre du comment. C'est dans l'ordre du comment que le psychologue va réparer les fissures. Parce qu'il y a justement une des causalités qui n'est pas bonne, qui n'est pas bien. Donc, c'est très différent. Le psychologue, c'est celui qui est chargé de réparer les pannes. Ça ne va plus. Il répare les pannes. Et il répare les pannes en voyant les fuites. Et il s'aperçoit en voyant les fuites ce qui répare. Ah, ça repartira après. Ou bien, il se trompe, il prend une de ses fuites, alors qu'elle est tout à fait seconde, pour être quelque chose de premier, il la répare, et ça continue de pas aller. Il dit, bon, ça vaut bien quelque chose de plus profond. La psychologie, elle est très très proche de la réalité, et elle est faite pour réparer tout ce qu'on reçoit comme coup à droite et à gauche. On en reçoit tout le temps. Alors, ça bondit. Alors, comme vous avez dit là, vous pouvez reprendre.
En quoi le « je suis » regardé par le métaphysicien diffère-t-il de l'approche du moi analysé en psychologie comme conscience de soi, responsabilité.
Vous voyez, le moi, comment est-il saisi? Il est saisi de l'intérieur. Mon moi. Il est saisi de l'intérieur et il est saisi sans faire la distinction du principe et du comment. C'est moi qui ne vois pas ce matin, je suis de mauvaise humeur. Et oui, je suis de mauvaise humeur, je renvoie prendre tout le monde. Qu'on ne me touche pas ce matin, faites attention. Tenez-vous sur vos gardes, j'avertis. Je suis de mauvaise humeur. Parce que je viens d'avoir un cauchemar terrible, et ce cauchemar, je suis dedans. Alors je vous envoie promener. Il ne faut jamais s'inquiéter quand quelqu'un vous envoie promener. Il faut dire, il a mal digéré. Et puis, vous essayez de rétablir la chose. Alors ça, c'est justement voir les petites crevaisons. Alors, tandis que le « je suis », ah, c'est très différent. Le « je suis », c'est une réflexion sur mon activité, quand je dis « je suis », et quand je dis « ceci est », quand je dis « ceci est », le « ceci » n'a pas grande importance, parce que ça peut être tout « ceci est ».« Ceci est », ce verre. L'eau, elle est. La montre, ceci est. La table, ceci est. Qu'est-ce qui est intéressant dans ceci est? C'est le « est », qui est le même pour tous les ceci-est et qui les actue tous. Donc, dans ceci est, je mets en pleine lumière l'acte d'exister. Le ceci, il est neutre. L'acte d'exister est très affirmé. Quand je dis je suis. Qu'est-ce qui t'affirmait ? L'acte d'exister ou le je ? Et quand je dis je suis, au fond, il y a juste l'inverse. L'exister est relatif au je. Je suis. C'est je qui est important. Et donc, comme un ordre inverse. Quand vous dites « ceci est », ce qui est important, c'est « est » et non pas « ceci ». Quand je dis « je suis », ce qui est important, c'est le « je » et non pas le « ceci ». Le « ceci » est important aussi, c'est sûr, c'est évident. Mais ce n'est pas lui qui polarise. Ce n'est pas sur lui que l'attention principale. L'attention principale est le je, tandis de l'autre côté, l'attention principale est et. Ça, c'est très important, parce que ça donne le sens de la proposition. La proposition, elle est le sujet et le verbe. Dans certaines propositions, le sujet l'emporte sur le verbe. Et dans notre proposition, le verbe l'emporte sur le sujet. Alors, le verbe est toujours un attribut, et le sujet est la chose principale, première. Alors, vous avez cette chose tout à fait curieuse, que dans « ceci est, je suis ». Dans « ceci est, et » est principal. Donc, je suis, je est principal. Et ça fait comprendre tout de suite les deux observations philosophiques, une observation à l'égard du sujet, une observation à l'égard de l'objet. Vous voyez ? Alors, ça, c'est comme c'est tout à fait primitif pour nous. Ceci est, je suis. C'est très important à bien distinguer, à bien discerner. Vous voyez ? Alors là, je suis en philosophie. Tandis que lorsque je dis le moi, c'est moi. C'est moi qui m'intéresse. Donc, je retourne tout vers moi. Et au fond, c'est dans la philosophie. C'est moi-même qui est l'objet de tout l'intérêt et qui prend tout. Donc, dans le « je suis » et « ceci est », je suis en philosophie. Quand je dis « moi », c'est moi, c'est moi. Je suis en psychologie parce que j'affirme l'importance du « moi ». L'importance du « moi » psychologique. Du psychologique, c'est capital. Oui. Donc, je suis dans une différence de point de vue philosophique ou au point de vue proprement psychologique, où le moi dépasse tout. Et le moi, est-ce que vous réfléchissez? Quand vous dites « moi », qu'est-ce qui est impliqué dans votre « moi » ? Quand vous dites « je suis », quelle tonalité il y a de différence entre « moi » ? Quand je dis « moi », j'existe, je suis. Et quand vous dites « ceci est » ou « je suis », c'est là où le langage montre bien, très bien, comment d'un côté le point de vue du sujet est capital, de l'autre point de vue, l'affirmation être est capitale.
Dernière question. Vous avez dit d'une part, au dernier cours, que ma personne est ma manière de vivre de la finalité. D'autre part, que nous recevons notre nature tandis que nous faisons notre personne.
Oui.
Je ne comprends pas parce qu'il me semble que les finalités que sont l'amitié et la contemplation relèvent de la nature humaine. En cela, la finalité n'est-elle pas plus du côté de la nature que de la personne ? En quoi la manière dont chaque personne vit de cette finalité qui est la même pour tous n'est pas seulement psychologique ou relatif à tel individu ?
Le point de vue de la personne implique toujours le point de vue de la nature. Le point de vue de la personne implique toujours la nature. La nature, elle est avant, elle est fondamentale. Alors, l'objet, l'intelligence et la volonté, ça caractérise ma nature. Ma nature humaine est une nature intelligente et volontaire. Hein ? Ça, c'est sûr. Donc, mon intelligence naturelle est intellectuelle et elle est volontaire. Ça, c'est évident. Mais quand je regarde l'exercice et la manière dont je regarde l'exercice, je suis alors là en présence de la responsabilité que j'ai d'exercer mon intelligence de telle manière, d'exercer ma volonté de telle autre manière. Oui, la responsabilité que j'ai. Je suis responsable de mes actes. Je suis responsable de mes actes. Ça relève d'une nature spirituelle. Mais de fait, ça relève d'une nature spirituelle finalisée, qui est la personne. Et alors, n'opposez pas nature et personne. Montrez que nature et personne se distinguent de deux manières différentes. La nature est principe. La personne, c'est une manière d'exercer ma vie. Oui. Alors, la personne implique la nature, c'est sûr. Ma personne implique ma nature, mais implique ma nature dans un exercice de telle façon. Ça, c'est la personne.
Et ça dit que les actes personnels responsables ne sont pas seulement un donné de la nature.
Quoi ?
Est-ce que les actes personnels responsables ne sont pas seulement un donné de la nature ?
Non, parce que ça se précise par rapport à la finalité. Il y a l'exercice de la finalité qui est impliqué dedans. Oui. Tandis que la nature ne le dit pas, dit simplement principe, capable de faire ça. Mais l'exercice de la nature n'est pas impliqué dans la personne. Du moins, est impliqué dans la personne, n'est pas impliqué dans la nature. C'est là la différence. Quelle différence ? Posez-vous le problème. Quelle différence y a-t-il entre nature et personne ? Bon, la personne assume la nature. Est-ce que je peux dire que la nature assume la personne ? Mais prenez tout simplement. C'est le petit jeu qu'il faut faire constamment. Quand on est en face de deux termes pareils, de regarder lequel est premier. Alors vous vous posez la question, dans quelle mesure la nature assume tout ce que vous dites de la personne ? Dans quelle mesure, au contraire, la personne assume tout ce que vous dites de la nature ? Alors vous voyez que la personne, elle est responsable de ses actes. Mais la nature aussi est responsable de ses actes. Mais attention, dans la personne, je mets ça en premier lieu. Je suis responsable de mes actes. Je m'organise dans ma vie pour pouvoir faire du mal à mon voisin. Ça, c'est personnel. C'est pas votre nature. C'est votre mauvaise nature. Mais quand vous avez un voisin qui vous fait du mal constamment, qui vous surveille pour vous faire du mal. Le voisin qui vous fait ça et qui dit « Ah, il a une mauvaise nature. Tout ce qu'il fait est mauvais. » Non, c'est pas ça. C'est vous qui avez un mauvais œil. Vous êtes bien lui. Et vous ne voyez que ce qui est mauvais. Et vous dites, ça c'est personnel. Oui. Le personnel englobe plus que la nature. Voilà ce qu'il faut voir. Le personnel implique une nature finalisée et donc responsable de toutes ses activités. La personne implique cette finalisation. Tandis que la nature, elle peut le faire, mais on ne dit pas qu'elle le fait. La personne exprime quelque chose de beaucoup plus concret, une manière d'être que la nature peut réaliser, mais ne réalise pas forcément. La différence entre le possible et l'exercice. Et la personne, c'est l'exercice, sa manière d'exister. Je crois que ça, c'est très important. Très bien. Là, nous poursuivons dans les différents éléments que constitue la personne humaine. Quand nous voyons que la personne humaine doit se regarder non pas comme un principe, mais elle doit se regarder comme une manière d'exercer ce principe. C'est très net, ça. Quand vous avez, par exemple, quelqu'un de tout à fait normal, que vous connaissez bien, dit, quelle personne, elle est gentille, elle est délicieuse, cette personne. Cette personne, un accident, qui fait que à partir de là, cette personne devient incapable de vous répondre. J'ai vu ça, c'est pour ça que je dis ça. Je l'ai constaté dans des circonstances assez tragiques. C'est à Paris. C'était une personne qui, pendant la guerre, avait eu une conduite exemplaire, extraordinaire. Elle s'était mariée sur le tard à quelqu'un de très bien. Elle avait eu un enfant, heureusement, et cet enfant était couvert. Cet enfant était très aimé. Elle était extrêmement gentille. Elle revient l'après-midi où elle a vu ses petits amis. Sa mère lui demande comment ça a été. Alors elle dit: « Ah, j'ai eu très peur du toboggan. Tout s'y descendait sur le toboggan. Je n'ai pas osé le faire. » Donc elle exprimait une angoisse qu'elle avait eue avec ses petits camarades qui n'hésitaient pas de faire ce toboggan. Ça les amusait follement. Et elle avait peur. Alors sa mère se met à lui dire: mais il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut dompter cette peur. Il ne faut pas s'arrêter à cause de ça. Puis elle fait comme ça un petit sermon, assez net. Et quand elle faisait des sermons, elle les faisait bien. Hein. C'est cinglé. Alors, elle n'a rien dit. Le lendemain matin, la fille elle avait 6 ans. Elle est partie première, sans rien dire, au toboggan. Descendre sur du toboggan, toute seule, pour répondre à sa mère. Et voilà qu'elle a eu tellement peur que elle était comme projetée. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement, puisqu'elle était seule. Et ce qui est sûr, c'est qu'à part de là, il y a quelque chose de l'intelligence, de la manière de parler, impossible. C'est tragique hein, de voir ça. On a essayé de voir le plus grand pontife faire avec ça. Rien possible. Il n'y a plus aucun. C'est tragique de voir ça. Et je crois que là, on saisit bien ce que c'est que la personne et la nature. La nature, il n'y avait rien de changé. Elle était toujours aussi gentille, extérieurement, visiblement. Mais sa personne avait disparu. Incapable de répondre. Et alors cette personne commençait à se développer. Et elle se développait bien. Alors sa mère était affolée. Elle disait à cause de moi. J'ai fait cette réflexion quand même. Il n'est pas peur. Tellement que sa mère n'était pas contente d'elle, il a trouvé qu'elle n'avait pas suffisamment de grand et de caractère. Que toute seule, elle est partie le matin. J'étais là chez eux, donc je l'ai vu. Alors là, je crois qu'on voit bien que la personne implique l'exercice du comment de toutes nos activités dont nous sommes responsables. C'est ça le problème. On va essayer d'énumérer maintenant toutes les activités du comment, ce qui forme notre personne humaine, et ce qui n'est pas dans notre personne humaine. Ça n'a jamais été fait, parce qu'au fond, c'est les psychologues qui sont emparés de la personne et n'ont pas du tout regarder la personne comme le POS. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne voient pas la différence entre TST, le principe, et puis le POS, la manière d'exercer. Alors, ça c'est un POS. Alors, premier, c'est le point de vue de l'autonomie. Une personne a une autonomie. Et lorsqu'elle n'a plus cette autonomie, la personne disparaît. Elle a une autonomie. Alors, sur quoi repose l'autonomie? Nous avons tous une certaine autonomie. Tous, plus ou moins grande, plus ou moins profonde, mais avant tout une autonomie. Alors, l'autonomie présuppose notre substance. C'est quelque chose de très profond par où nous sommes distincts les uns des autres dans notre autonomie de l'être. Dans notre autonomie de l'être, nous subsistons. Et c'est la subsistance qui est le premier élément de la personne. Subsister d'une manière propre, d'une manière autonome. Nous prenons nos décisions quand il faut les prendre et nous savons les prendre. Nous prenons, donc c'est absolument indispensable pour que la personne existe, que cette personne ait suffisamment d'être pour s'affirmer. La personne s'affirme. Tu restes, c'est ce qu'on dira. Ah, cette personne n'a pas assez beau. Il manque un peu de personnalité. Dès qu'elle est devant un obstacle, tout de suite, on va compter sur elle. Tandis que quelqu'un qui vous dit oui, faut là maintenir coûte que coûte, sera là. C'est ça. C'est la décision, c'est l'autonomie. L'autonomie dans notre activité, notre manière de subsister. C'est une manière de subsister, la personne. Donc c'est une manière d'être, au sens très fort. Elle est donc, au point de vue profond, elle touche à notre être substantiel, notre âme. C'est l'activité propre de l'âme d'avoir la possibilité d'affirmer quelque chose et de se tenir à cette affirmation et de faire que ça, ce soit notre premier axe profond. Donc, la personne exige un axe profond de nos activités, une détermination profonde de nos activités. Et qu'est-ce qui va nous donner cette précision de nos activités, l'orientation de notre vie? C'est notre finalité. Quelqu'un qui n'a aucune finalité n'a aucune personne, aucune personnalité. En lui, oh, je peux faire n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Rien n'a d'importance, rien n'a de valeur, parce qu'il n'y a pas de finalité. C'est la finalité qui me détermine fondamentalement et permet que toutes mes activités soient déterminées dans tel sens. C'est, je crois, la première exigence de la personne. S'il n'y a pas cela, il ne peut pas y avoir de personne. Et on s'en aperçoit alors, d'une façon catastrophique, quand un accident arrive et qui empêche la décision. Si la décision ne peut plus se prendre sur n'importe quoi de ma vie, il n'y a pas de personne. Je suis un homme, une femme, déterminée dans ma vie. Pour être personnel, il faut être déterminé. Il y a un axe de la finalité. À ce propos-là, oui, nos vœux de religion nous déterminent très profondément et apportent une note spéciale à notre personne. On le verra au terme, mais on peut le voir déjà dès maintenant, dans cette détermination. Parce que c'est une détermination très profonde qui prend toute notre vie et donc toute notre finalité. La décision du mariage est moins profonde. Elle est relative à l'amitié de quelqu'un. Elle est très profonde, mais elle est relative à l'amitié de quelqu'un. Et si je suis fidèle à cette amitié, je suis fidèle au mariage. Et là, c'est la fidélité à la parole dite à Dieu.